La plupart du temps, ce qu'on voit avec les collectifs, c'est qu'on est dans un partage de moyens, mais on peut aussi, à terme, mutualiser de l'emploi. Monsieur Douda, vous aussi présent, je me tourne vers vous. J'arrête de faire un long speech. Et par rapport au plateau, au niveau de la mutualisation d'espaces de travail, l'orga, etc., est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur le plateau, déjà, sur cette action du plateau? Tu as un micro devant toi.
Alors, très...
C'est ça. Il est... Attends, prends celui-là. Jérémy, nous avons notre... La caméra a des moyens, nous avons Jérémy. Monte un peu parce que Douda,
il a la voix grave. Alors le projet du plateau, en fait, c'est un projet qui est coporté par un certain nombre de structures culturelles, je pense notamment à l'Astrolabe et puis à la Frakema, éventuellement à d'autres dans le périmètre, je pense à Labomédia qui travaille sur les arts numériques sur le Loiret et plus précisément à Orléans. L'idée, en fait, c'est de travailler dans le prolongement, en fait, de projets qui existent déjà, je pense notamment à la plateforme Métier Culture et puis à la coopérative, entre autres, à la question de l'accompagnement, en fait, des entrepreneurs culturels. Et de se regrouper finalement sur un enjeu de mutualisation pour créer en fait des synergies entre des structures qui finalement cohabitent sur un territoire mais ne causent pas forcément toujours ensemble, dans l'idée que peut-être ce serait plus efficace pour toucher et prendre en charge nos publics. Le point de départ, en fait, c'est ça. Donc l'idée, c'est que c'est d'abord une dynamique d'acteurs sur le territoire et la volonté de se mettre en relation et éventuellement de produire de la visibilité. C'est d'abord un projet politique, c'est à produire de la visibilité pour faire émerger et soutenir des projets de gens qui sont éventuellement ou pas précaires mais qui ont du mal en tous les cas à émerger, considérant qu'aujourd'hui la prise en charge de ces publics-là, autant elle peut être structurée dans un certain nombre de cas, mais on sait que la culture, les disciplines, en fait, renvoient à des réseaux sectoriels, etc. Il y a des réseaux qui sont bien outillés, puis il y en a qui sont beaucoup moins outillés. Et l'idée, c'est finalement d'aller vers une mise en relation et finalement une mutualisation aussi de moyens pour accueillir et prendre en charge ces publics-là. Donc ça se traduit par l'idée du plateau, qui est potentiellement un lieu. Un lieu plus ou moins virtuel puisqu'il préexiste aujourd'hui dans un espace qu'on a coopté collectivement rue de Limard à Orléans, une centaine de mètres carrés sur lequel on s'est retrouvé avec l'Astrolabe, et de réfléchir avec sur comment on peut créer à l'intérieur les conditions d'une communication pour accueillir des entrepreneurs culturels, leur mettre à disposition un certain nombre d'espaces de travail, du coworking, des choses comme ça, et puis de voir si ensemble on peut pas mutualiser des moyens, notamment la compétence humaine, pour organiser un diagnostic des porteurs de projets et puis prescrire et construire avec eux des parcours, quoi.
Donc ça va au-delà juste de simple utilisation d'espaces de travail, c'est aussi une dynamique d'accompagnement et de construction de projets pour des entrepreneurs, enfin les futurs entrepreneurs.
Oui, ben après l'enjeu avec notre modeste expérience collective, c'est finalement d'être pragmatique aussi et puis de voir quels sont les leviers qui vont permettre à ce qu'il se passe des choses. Il s'avère que l'expérience montre quand même que des lieux de croisement, c'est quand même super important sur les territoires. C'est-à-dire que c'est aussi autour d'un café, et quand on mange et qu'on boit des coups, que finalement on apprend à se connaître et on va coopérer. Alors coopérer et collaborer, c'est pas tout à fait pareil, du coup, juste pour dire qu'on peut coopérer à un objectif commun, mais sans collaborer. Et que là, le but du jeu, c'est quand même plutôt d'essayer de faire en sorte que les gens arrivent à travailler ensemble, même si on peut avoir en face de nous des initiatives individuelles ou collectives, considérant que c'est sûr que les entreprises individuelles sont souvent quand même plus fragiles au départ, et que collectivement, soit encadré par une forme juridique, soit... dans un espace où elles vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir aller souvent sur des projets plus ambitieux, et aussi avec l'idée de croiser, faire l'interdisciplinaire, et éventuellement même de croiser des disciplines artistiques avec d'autres formes, je pense par exemple au numérique, aux arts numériques, à la socio, etc., pour aussi inventer d'autres types de projets, quoi, sur les territoires en mode innovation sociale.
Oui, mais du coup, ça pose, quand tu parles d'art numérique, ça renvoie sur fragilité des entrepreneurs dans le secteur des arts plastiques en général, qui font que enfin, le financeur principal des arts plastiques, c'est le RSA. Donc comment après le plateau peut venir aider à structurer ces activités-là, je ne sais pas. Si...
Alors juste rapidement, parce que c'est un peu l'origine quand même du projet de la coopérative d'activité d'emploi. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé 10 ans au Labo Média, qui est une association dédiée aux arts numériques. L'enjeu en fait c'est qu'on s'est aperçu qu'on travaillait avec des gens. Discipline donne, si ce n'est le régime, enfin si ce n'est le statut, au moins le régime, les peintres, etc., plutôt la MDA, les écrivains,
MDA, c'est maison des artistes.
Maison des artistes, pardon. Écrivains, plutôt les AGSA. Et la réalité aujourd'hui, c'est que rares sont ceux dans ces domaines-là qui arrivent à vivre de leur travail artistique. Donc souvent, ils sont en multi-activité pour croûter à la fin du mois, et de facto, souvent aussi, en multi-statut. Parce que c'est pas la maison des artistes qu'on accueille. Alors, à la marge, oui, mais pas de manière démesurée des ateliers ou d'autres types d'activités. Et donc la difficulté, c'est qu'on a déjà des régimes qui sont très précaires au départ, puisqu'on ne cotise pas grand-chose. Mais là, en plus, ça veut dire que finalement, on dilue son activité économique dans plusieurs statuts. Donc du coup, on a encore moins de chances d'atteindre les seuils. Et donc du coup, on reste finalement précaire un petit peu toute sa vie. Et la réflexion qu'on avait, c'était de se demander s'il n'existait pas un statut, un régime qui pouvait permettre finalement d'intégrer toutes les activités d'une même personne sous un seul statut, et tant qu'à faire au régime général.
Donc ça, c'est pas le principe du plateau, ça, c'est plutôt vraiment le principe
de la coopérative. C'est le principe de la coopérative, mais la coopérative étant une réponse parmi d'autres, parce qu'on peut trouver aussi d'autres formes de mutualisation. Alors moi, je ne suis pas du tout sur le spectacle vivant, évidemment, parce que nous, c'est régime général, donc on n'a pas de licence, on ne peut pas dans le spectacle, et puis on ne va pas là-dessus. Mais il faut savoir que en France, il y a 5 CAE, coopératives d'activité d'emploi dédiées au métier de la culture. Il y en a 2 qui ont fait des expérimentations, on est plutôt sur le numérique. Je pense par exemple à Strasbourg, c'est Art en Réel. Art en Réel a fait l'expérimentation en fait, d'accueillir les intermittents.
Par rapport au CAE, la CAE.
Non, mais pour dire que ce que je veux dire, c'est que les CAE, c'est un mode d'entreprendre, de facilitation et de développement des projets, comme il y en a d'autres. Voilà, nous, on est un acteur parmi d'autres, mais l'enjeu du plateau, c'est de proposer différents outils pour permettre à des gens qui se présentent, qui ne sont pas forcément avec un statut, éventuellement, pour développer leur projet. Quoi.
D'accord. Et quand tu parles d'offrir aux entrepreneurs des outils ou des services, est-ce que ça veut dire que ça va être quoi le modèle économique du plateau par rapport à des entrepreneurs qui n'ont pas de structure dans le cadre de mutualisation, etc. C'est des gens qui viennent, qui payent un abonnement à cet outil.
Je crois qu'on discute avec la Fracama, c'est une petite structure locale. Qui a plein de sous.
Ah bon ?
Non, mais ça, c'est évidemment à travailler. Enfin, voilà, il y a un enjeu. Il y a un enjeu aussi de se positionner sur un territoire où on voit bien que, alors nous on est un petit peu aussi sur le numérique, on a bien vu ce qui s'est passé, les French Tech, etc., où il y a quand même un petit peu beaucoup de moyens qui sont mis sur ces gros tracteurs-là qui peuvent être pertinents à certains endroits, même s'ils peuvent être aussi critiquables à d'autres, sur le modèle de la start-up, etc. Nous, on ne produit pas de la start-up. Pour autant, on n'est pas moins légitime, on crée de l'emploi, où on a vocation effectivement à accompagner tous ces gens-là. Le modèle économique, il va falloir qu'on le trouve, considérant que quelqu'un qui démarre, d'autant plus, quand il vient des arts plastiques, je disais le RSA, j'ai envie de dire, il y a un peu 3 modèles économiques. Soit il sort des beaux-arts, il a le discours qui est bien huilé, et puis il a envie politiquement aussi d'y aller. Éventuellement, il peut aller chercher des sous à la DRAC ou à la région, ce qui n'est pas forcément non plus un choix systématique. Éventuellement, il peut, dans les arts plastiques, notamment l'art contemporain, se positionner sur le marché. Il s'avère que à Orléans, il n'y a pas trop de galeries, etc. Donc, parce qu'il faut, évidemment, il y a tout un... une chaîne avec des acteurs qui ne sont pas forcément existants chez nous. Effectivement, nous, c'est 72% par exemple de notre public qui est RSA et RE dans la coopérative au départ quand on y arrive. Donc c'est pas anodin non plus. Donc l'idée, c'est comment on facilite. Voilà, donc ça veut dire peut-être réfléchir à se dire pendant 6 mois, je ne sais pas, j'imagine, ça va être gratuit. Voilà, parce que de toute façon, tu n'as pas de sous, on ne va pas te les piquer. Et puis peut-être que si on t'accompagne et si tu développes de l'économie, peut-être qu'on peut être associé à ta réussite d'une certaine manière. Donc et puis il ne faut pas se leurrer, il faut avoir des suivis de public aussi, parce qu'à un moment, il faut emmener un petit peu la collectivité dans ces histoires-là. Donc il faut trouver cet équilibre qui soit judicieux, mais il faut être facilitateur. Enfin, l'enjeu, c'est pas de...
Excuse-moi, mais là je suis un peu le béotien, mais
Alors,
est-ce qu'une compagnie émergente peut venir rencontrer
En 37e parallèle, on a accompagné beaucoup de projets depuis quelques années, où les compagnies, en fait, des compagnies qui ne se structurent pas, parce que c'est lourd administrativement, et on a plutôt tendance à leur dire, ne le faites pas, allez voir d'autres gens qui peuvent porter leur projet.
Oui. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu le projet du plateau aussi, quoi. C'est-à-dire, et pas forcément celui de la coopérative. Hein. Voilà. Parce que effectivement, nous, on voit bien aujourd'hui, il y a quand même un écueil sur les arts vivants. Aujourd'hui, moi, j'ai peu d'interlocuteurs, en fait, même au 108, de gens qui ont une fonction ressource, qui accompagnent, prennent en charge et accompagnent dans le temps, en fait, des porteurs de projets. Tant qu'on est dans des problématiques, alors du coup, on se croise un peu, c'est-à-dire que nous, on a une... Alors, tous les gens qu'on accompagne, nous, dans la coopérative, par exemple, n'ont pas vocation à rentrer dans la coopérative. Voilà. Après, quand il s'agit de discuter sur des compétences entrepreneuriales, on va dire, là, on peut être pertinent voilà, sur des réflexions d'outillage aussi, sur la communication, sur du statut juridique, voilà, tout ça, évidemment, on sait faire. Dès qu'on va commencer à gratter des enjeux très techniques liés au spectacle vivant, bon, évidemment, on les connaît parce que, voilà, mais on n'aura pas, nous, de réponse sur l'encadrement juridique. Sauf à ce que ce soit des gens qui ont fait le deuil de l'intermittence, hein, parce qu'ils savent qu'ils dépasseront les 110 heures de régime général, et qu'ils ont d'autres parce qu'ils ont d'autres activités à côté, qu'à un moment ils veulent être. Voilà, bon, ça, ça arrive, mais c'est très à la marge en fait, dans la coopérative. Hein.
Donc en fait, ce que tu pointes, toi, Séverine, la réponse, c'est que vous êtes une structure qui a pignon sur rue, qui a une visibilité, il y a des gens qui viennent vous solliciter par rapport à de l'accompagnement, ou au moins à les aider pour de la structuration.
Non, nous accueillir des compagnies qui ne sont pas structurées et qui sont à la recherche de nouvelles structurations et qui ne sont pas comme il y a 20 ans où les metteurs en scène avaient forcément leur compagnie avec leurs comédiens. En fait, je pense que ça, c'est très mouvant en ce moment dans le spectacle vivant où les jeunes structures, les jeunes compagnies, elles ont plutôt envie d'être en collectif, d'avoir plein de metteurs en scène, plein de comédiens, et puis c'est mouvant, ça tourne et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, dans le spectacle vivant, la compagnie qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend encore beaucoup, je pense qu'elle va devenir à disparaître, en tout cas, j'ai l'impression de ça. Et qu'en fait, les jeunes compagnies cherchent plutôt des gens pour les soutenir administrativement et les accompagner sur un projet. Et plus du tout avoir le nom de leur structure.
Alors cet après-midi, on a Mathieu Roger de la Belle Orange qui va venir pour parler justement de tout ce qui est bureau d'accompagnement d'artistes, parce que ce que ça pointe également, c'est le fait qu'il y a des bureaux de production qui existent, mais il y a aussi peut-être d'autres formes de création, de structuration à faire. Et ce que je voyais, moi, c'était plutôt le fait qu'il y a une phase d'accompagnement nécessaire entre le moment où on est en début d'activité ou en création et le moment où on va pouvoir intégrer une quelconque forme de structuration, que ce soit une CAE ou autre chose, puisque ça nécessite d'avoir quand même un volume d'activité nécessaire. Donc ça veut dire que...
Pas forcément.
Nous accueillons Caroline. Caroline Dumas, directrice de la CRES.
Excusez-moi d'être en retard.
D'accord. Et j'ai une question pour toi, Emmanuel. C'est quoi la différence entre le plateau et une pépinière ou un incubateur? C'est ma question de B aussi.
Le plateau, c'est le monde d'un projet. Un incubateur, c'est une fonction, et une pépinière répond à une fonction aussi. C'est-à-dire que dans le projet du plateau, on peut envisager effectivement qu'il y ait une pépinière qui est. Voilà, cette logique-là est présente dans le projet du plateau. L'idée, c'est évidemment de s'adresser à des équipes artistiques, collectives ou individuelles, et de voir comment on peut les accompagner, les prendre en charge et de quoi ils ont besoin, que ce soit des espaces, que ce soit la photocopieuse, que ce soit à un moment un diac, de la prescription, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit. Donc, c'est un pôle ressources avec une expertise. Des espaces de travail. Enfin,
et toi, c'est quelque chose d'important par rapport à ça, la ressource qu'on peut retrouver dans ce genre de lieu ou par rapport à une utilisation de moyens, la ressource est un des outils. Parce que c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. Tout ce que j'ai vu sur la mutualisation, c'est l'aspect informel nécessaire à savoir dans les échanges en termes de communication sur les usages, sur ce qui se fait, etc. Après, moi, ce que ça me pose, moi, comme problème ou comme interrogation intellectuelle, c'est la validité des informations qui sont transmises. Je prends l'exemple en musique, pendant des années, on a entendu « Non mais c'est bon, tu peux utiliser 30 secondes de musique sur un sample, personne ne te dira rien. » Non, c'est pas possible. Franchement, une exploitation commerciale, tu utilises la musique d'une personne autre, tu ne peux pas l'utiliser. Mais c'était une sorte de on-dit et de transmission, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une qualification de la ressource nécessaire.
Comme dans les arts plastiques, où on disait qu'on avait le droit de facturer sans avoir de numéro de sirette, que c'était accepté à la marge. Donc ça, c'est un mythe aussi. Non, mais bon, après, ça, je vais te dire, c'est de la responsabilité des gens qui sont derrière, de leurs compétences aussi, de vérifier ce qu'ils racontent. Enfin, je veux dire, ça, c'est la fonction de base. Mais la ressource, en tous les cas, moi je rejoins ce que tu disais, enfin, ce besoin de relation interpersonnelle, elle est juste énorme. Enfin, les équipes sont isolées, ça c'est très clair, quoi. Donc le premier besoin, évidemment, il est là. Enfin, c'est aussi ce qu'a fait la coopérative, hein. Enfin, le succès, entre guillemets, de ce type de structure-là. Et après, effectivement, je veux dire qu'aujourd'hui, pour piloter des projets dans des, enfin, avec des contraintes qui sont celles que tu évoquais tout à l'heure, il faut une expertise dans des domaines très différents, quoi. Et souvent, c'est des métiers passion, des équipes artistiques. Alors, moi, je maîtrise moins le spectacle vivant, mais chez nous, entre guillemets, au sens artisanat, art plastique, etc., numérique.
Je suis peut-être dans la CAE.
Ouais, enfin, en tous les cas, la famille d'artistes ou de créateurs auxquels on s'adresse, les gens, ils sont super pointus sur les techniques, hein, d'autant plus qu'ils ont plutôt 31, 45 ans, donc ils ont un peu d'expérience. Mais ils sont fraises totales sur tout un tas d'enjeux, et ils ne savent pas y faire des dossiers. Ils savent écrire, mais ils ne savent pas hiérarchiser l'information, s'adresser à une collectivité, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas tenir un entretien, ils ne savent pas pitcher. Ils savent... Enfin, je caricature, mais quand même beaucoup d'entre eux sont en difficulté sur ces sujets-là, sans parler, alors après, effectivement, de cette envie, de cette intuition de se dire qu'on peut être plus fort à plusieurs, sauf que, bon, on verra ça un peu après, mais la coopération et la collaboration, ça ne s'improvise pas. Il faut aussi des compétences. Ouais. La posture entrepreneuriale, au sens réagir à des opportunités, avoir cette agilité qu'a priori on a, sauf qu'en fait, pas tant que ça, moi je ne pense pas. Bah, c'est aussi des compétences psychosociales, bon, on pourra en discuter, mais non, c'est là il y a du chantier, et d'autant plus quand tu t'adresses à des gens qui sont RSA, qui sont très très isolés, qui ne sortent pas beaucoup, qui font leur musique ou qui font leur truc dans leur garage, et c'est super complexe, quoi.
D'accord, parce que justement, enfin, après, je vais donner la parole à Arnaud, mais c'était justement le fait que ce que je trouve intéressant dans le dispositif de la CAE, qu'on va aborder après, mais c'est justement cet échange de transfert de compétences, de valeurs et de en interne qui permet justement de faire, enfin, d'incrémenter ou de faire progresser tout le monde au sein de la structure. Et je trouve que c'est justement en termes de mutualisation de compétences en interne au sein de la structure qui est, entre guillemets, des personnalités plurielles, je trouvais ça très très bien de justement de mettre en avant cette mutualisation-là potentielle d'action ou d'action de formation, etc. Et de valoriser les compétences de chacun des entrepreneurs salariés au sein de, enfin, en termes d'interaction, d'inter, du coup, on est plus fort ensemble, quoi.